Chapitre 84. Le feu. Carlman parle d'une voix stressée dans sa radio en se dirigeant vers la cage d'escalier. « Il y a un feu à l'étage supérieur, » dit-il brièvement. « Quelle en est l'étendue ?» demande Yonar lui emboîtant le pas. « Nous l'ignorons pour l'instant, mais nous évacuons l'ambassade. Il y a 11 personnes là-haut. » Carlman saisit un extincteur dans un placard et retire la goupille de sécurité. « Je sors avec Pénélope !» crie Saga. « C'est lui qui a déclenché l'incendie !» dit Pénélope. « Il va disparaître pendant qu'ils essaient de l'éteindre !» Yonah suit les trois policiers militaires dans la cage d'escalier. Leurs pas résonnent entre les murs en béton. En silence, ils montent l'escalier à grandes enjambées jusqu'au deuxième étage. Une forte odeur de fumée règne sur le palier et des voiles gris serpentent sous le plafond. Carlman ouvre une porte et regarde à l'intérieur d'un bureau vide, tandis que Yonah ouvre la porte suivante. Il n'y a personne non plus. Il continue d'avancer. On dirait que le feu provient de la salle Schiller. Il y a une cuisine à l'arrière, dit Carlman en faisant un signe droit devant lui. Au bout du couloir, de la fumée noire s'échappe de la double porte. Elle semble s'écouler telle de l'eau trouble par tous les interstices pour venir se répandre le long du plafond. Une femme pousse un cri. Un grondement sourd résonne dans le bâtiment comme un coup de tonnerre qui viendrait des profondeurs de la construction. Soudain, ils entendent un bruit de verre brisé derrière la double porte. Il semble que les vitres aient éclaté sous l'effet de la chaleur. « Il faut faire évacuer les gens !» dit Yonah. « C'est... » Carlman fait taire Yonah d'un geste de la main lorsqu'il entend son nom dans la radio. Il pose l'extincteur au sol et répond. Il échange quelques mots en allemand avec son interlocuteur, puis se tourne vers le groupe. « Écoutez, » dit-il d'une voix ferme. « Les gars du poste de surveillance ont repéré un homme habillé en noir sur leurs écrans. Il est dans les toilettes des hommes. Il y a un pistolet dans le lavabo. « C'est lui !» dit Yonah. Carlman appelle le poste de surveillance et se renseigne à voix basse sur la position exacte de l'homme. « 2 mètres à droite de la porte, » explique Carlman. Il saigne abondamment de l'épaule et est assis par terre. Mais la fenêtre est ouverte, il se peut qu'il tente de s'échapper par là. Leurs pas martèlent maintenant le papier de protection marron. Ils passent une échelle de peintre et s'arrêtent derrière Carlman. La température est nettement plus élevée ici et la fumée ondule au plafond comme un cours d'eau boueux. Tout autour d'eux crépite et gronde, le sol semble trembler sous leurs pieds. « Il a quoi comme arme ?» demande Yonah à voix basse. Il ne pouvait voir que le pistolet dans le lavabo, mais pas «
Demandez s'il a toujours son sac à dos sur lui, » dit Yonah.
« Car il a avec lui... »«
C'est moi qui dirige l'opération, » siffle Carlman.
Carlman fait signe à un de ses hommes. Ils vérifient ensemble leurs fusils d'assaut et pénètrent à l'intérieur des vestiaires. Yonah aurait aimé les mettre de nouveau en garde avant qu'ils ne disparaissent. Il sait d'expérience que les tactiques classiques ne font pas le poids face à ce type de tueur. Ce sont des mouches qui s'approchent d'une araignée. Ils vont se prendre dans sa toile un à un. Yonah sent la fumée lui piquer les yeux. Il sait qu'une araignée tisse sa toile avec 2 fils différents, les fils collants qui retiennent les proies et les fils secs sur lesquels elle peut se déplacer sans s'engluer. Yonah baisse alors le chien de son Smith & Wesson et suit les policiers militaires avec précaution. Ils sont déjà en formation devant les toilettes des hommes. L'un d'eux, un blond dont les longs cheveux sortent du casque, retire la goupille d'une grenade à choc. Il ouvre, lance la grenade sur le carrelage et referme rapidement la porte. Une détonation sourde résonne à l'intérieur et l'autre policier militaire ouvre la porte et pointe son arme dans l'obscurité. Carlman désigne la pièce. Et sans une seconde d'hésitation, le policier blond se précipite à l'intérieur en tenant son fusil d'assaut levé, la crosse contre l'épaule. Yonah est soudain pétri d'angoisse. Il entend le policier blond dire quelque chose d'une voix apeurée, presque enfantine. Une violente déflagration retentit. Le policier est expulsé par la porte dans un tourbillon de fumée et de mortier. La porte est arrachée de ses gonds. L'autre policier a lâché son arme, dérape sur le côté et pose un genou à terre. L'onde de choc fait reculer Yonah d'un pas. Le policier blond est allongé sur le dos dans le couloir. Il a la bouche ouverte et du sang entre les dents. Il est inconscient, et un important éclat de grenade a pénétré la chair de sa cuisse. Du sang rouge vif est expulsé de la blessure et éclabousse le sol. Yonah se précipite sur lui et le tire plus loin. Il sent la chaleur du sang qui continue à s'écouler de la plaie sur ses mains lorsqu'il noue la ceinture de l'homme
et un bras de chemise autour de sa cuisse pour former un bandage compressif. L'autre homme s'est effondré. Il pleure et semble terrifié. Deux policiers militaires aident un homme aux cheveux gris à traverser le couloir. Son visage est noir de suie et il peut à peine marcher tout seul. Une femme a attaché son gilet autour de sa bouche et se précipite à l'extrémité du couloir, les yeux écarquillés de peur. Son pistolet en main, Karlmann pénètre dans les toilettes en faisant crisser les éclats des miroirs et du carrelage sous ses pas. Le tueur gît à terre. Il est encore en vie. Ses jambes frétillent nerveusement et ses bras tentent désespérément de trouver un appui. Il a le visage mutilé. Karlmann regarde autour de lui et voit le fil de fer. L'homme voulait sans doute leur tendre un piège et amorcer une grenade à main lorsqu'il a été surpris par la grenade à choc et a perdu la sienne. « Allons évacuer les autres !» chuchote Karlmann en quittant les toilettes. Yona essuie le sang de ses mains pour appeler le central et demander qu'on fasse venir une des ambulances garées près de l'ambassade du Japon. Il voit Pénélope arriver depuis la cage d'escalier. Saga marche sur ses pas. Les yeux de Pénélope sont d'un noir intense, mais cerclés de rouge, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Saga tente de la calmer et de la retenir, mais elle se libère de son étreinte.
« Où est-il ? »
crie-t-elle.
« Je veux le voir ! Nous devons sortir !» hurle Yona. « Le couloir sera bientôt envahi par les flammes !»
Pénélope ignore sa remarque, se dirige vers la porte des toilettes et voit l'homme qui gît à terre, le corps tremblant et le visage ensanglanté. Elle gémit puis ressort dans le couloir en tâtonnant sur les murs pour se maintenir debout. Sur son passage, elle fait tomber une lettre encadrée du chancelier fédéral Willy Brandt qui était accrochée au mur. La vitre se brise mais le cadre reste appuyé contre le mur. Pénélope respire avec peine. Elle a un haut le cœur et se force à déglutir, puis sent que Saga tente de la prendre dans ses bras pour la ramener vers la cage d'escalier.
« Ce n'est pas lui !» gémit Pénélope. « Nous devons sortir !»
dit Saga d'une voix réconfortante en l'entraînant avec elle. Des ambulanciers portant des masques de protection contre la fumée emportent le policier militaire blessé. Une nouvelle explosion résonne dans le couloir comme une profonde expiration. Des éclats de verre et de bois sont projetés en l'air. Un homme avance en titubant, tombe mais parvient à se relever. De la fumée s'échappe d'une porte ouverte. Un homme corpulent est immobile dans le couloir. Du sang coule de son nez sur sa chemise et sa cravate. Les policiers militaires leur crient de se diriger vers la sortie de secours. Des langues de feu lèchent l'encadrement d'une porte. Le papier de protection sur le sol prend feu avant de disparaître en se tortillant. Deux personnes marchent à quatre pattes sur le sol brûlant. Une femme, dont la robe est en feu, pousse un terrible hurlement avant qu'un policier militaire ne l'asperge de mousse blanche. Yona tousse à cause de la fumée de plus en plus épaisse, mais pénètre tout de même dans les toilettes des hommes et observe les ravages causés par la grenade. Le tueur est désormais complètement immobile. Son visage est recouvert de bandages. Du sang cramoisi s'échappe encore de la blessure par balle au niveau de son épaule. Le placard contenant le matériel nécessaire au premier secours est posé sur le sol. Des pansements et des compresses en sont tombés et gisent parmi la poussière et les morceaux de carrelage blanc. Les murs sont noirs, les cabines des toilettes détruites, les miroirs brisés et de l'eau s'écoule au sol par un conduit arraché. Un lavabo contient 7 chargeurs et un pistolet de la marque Eclair & Koch. Et derrière l'une des cuvettes, Yona aperçoit le sac à dos en nylon noir du tueur. Des cris et des voix apeurées mêlées aux consignes des militaires parviennent depuis le couloir. Karlmann entre dans les toilettes avec des ambulanciers.
« Je veux que quelqu'un le surveille !»
dit Yona avec un geste en direction du tueur lorsque les ambulanciers le déposent sur une civière et l'attachent.
« Il sera mort avant même d'arriver à l'hôpital !» répond Karlmann en toussant. « Aucune importance. Je veux que vous le surveilliez tant qu'il se trouve sur le site de l'ambassade. »
Karlmann croise le regard déterminé de Yona et ordonne à un de ses hommes de rester avec le suspect jusqu'à ce qu'on le remette à la police suédoise. La fumée noire envahit peu à peu le couloir. Des personnes crient et toussent. Terrifiée, elle se dirige vers la sortie en se tenant le plus près possible du sol. On appelle Karlmann sur sa radio et il s'accroupit sous la fumée pour répondre.
Il manque encore une personne. Il devrait se trouver à cet étage.
Yona saute par-dessus la porte qui a été soufflée pendant l'explosion et se dirige vers un bureau encore fermé. Il pose sa main sur la poignée. La lumière clignote un temps
avant de s'éteindre complètement. Seule la lueur inconstante des flammes éclaire désormais le couloir en fumée. Des gerbes d'étincelles jaillissent d'une pièce donnant sur le couloir. Tout le bâtiment crépite et gronde violemment. Les parois semblent grincer comme du métal qui se tord. Yona jette un dernier coup d'œil à Karlmann, qui gesticule pour lui signifier de reculer. Il dégaine son arme et ouvre la porte de quelques centimètres, se décale sur le côté, attend quelques secondes et regarde ensuite dans l'obscurité. Il ne voit rien, hormis l'ombre noire du bureau contre les persiennes fermées. Il perçoit soudain un faible mouvement au niveau du sol et se décale de la ligne de tir.
« Évacuez les locaux !»
crie quelqu'un dans son dos. Yona se retourne et voit quatre pompiers faire irruption dans le couloir. Ils se dispersent et sondent les pièces une à une. Avant que Yona n'ait eu le temps de les mettre en garde, l'un des pompiers dirige le puissant faisceau de sa lampe torche à l'intérieur. Deux yeux brillent et un labrador aboie.
« Nous prenons les choses en main. Est-ce que vous arriverez à sortir par vous-même ?»«
Une personne est portée disparue, » déclare Karl.
« Soyez prudent, »
dit Yona en regardant le jeune pompier dans les yeux.
« Allez, venez !» lui crie Karl. « Je vais juste vérifier quelque chose. »
En toussant, Yona entre dans les toilettes des hommes, se précipite dans une des cabines et s'empare du sac à dos du tueur.